Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous, nous sommes à Nantes où se tiennent ce week-end les Géopolitiques de Nantes, un événement co-organisé par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nantes Métropole est le lieu unique dans l'amphithéâtre duquel nous nous trouvons. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, un nouveau slogan est apparu, « America is back », l'Amérique est de retour, qui est venu remplacer celui de l'America First de son prédécesseur, dans une volonté affichée de détrumpiser l'Amérique, mais avec un résultat plutôt incertain. Si la ligne dure de la Chine est maintenue, l'heure est au questionnement, alors que la nouvelle administration Biden semblait soucieuse de restaurer le multilatéralisme, l'atlantisme et le leadership américain. 8 mois après le début de l'administration Biden, l'America First semble plus éloignée qu'on l'imaginait, au point que l'on se demande désormais si Joe Biden n'est pas en train de normaliser la politique étrangère de son prédécesseur. Regard avec nos invités. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Son dernier livre, « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir » paru aux éditions Kalman-Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, bonjour.
Bonjour.
James Cohen, politiste, professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle au sein du département Monde Anglophone et à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Aski, chroniqueur géopolitique à France Inter et à l'Obs, président de Reporters sans frontières, bonjour.
Bonjour.
L'annonce surprise il y a quelques jours d'un nouvel accord de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, le fameux AUKUS, particulièrement la décision de Canberra d'acquérir des sous-marins nucléaires américains en lieu et place de bâtiments français, a généré des réactions fortes en Europe. La motivation des Américains a-t-elle été seulement commerciale ou s'agit-il d'une rupture stratégique ? Pascal Boniface.
Ce n'est pas une rupture stratégique, puisque finalement les Américains sont dans la lignée de leur comportement. Une rupture, il faudrait dire que ça serait une rupture, c'est si tout d'un coup Joe Biden s'est dit « mais mon allié français a signé un contrat important pour lui, comme je tiens à mon allié, je ne vais pas passer un accord avec les Australiens parce que je respecte mes alliés ». Ça serait une rupture stratégique, que les Américains respectent leurs alliés et du coup fassent des concessions à leurs alliés. Donc c'est effectivement un coup de tonnerre, effectivement, c'est un sale coup porté à la France, mais c'est dans la continuité, peut-être que l'erreur que certains ont faite, mais peut-être aucun de nous à cette table, c'est de penser qu'il y aurait une rupture totale entre Donald Trump et Joe Biden. Il y a des différences, on ne peut pas le nier. L'un est beaucoup plus poli, courtois, civil que l'autre. Mais en même temps, le fondamental de la politique américaine, c'est que lorsque leurs intérêts sont en jeu, et d'autant plus lorsque les intérêts du complexe militaro-industriel sont en jeu, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et les intérêts font que, eh bien, on peut marcher sur les pieds de ses amis.
Pierre Aski, vous partagez, pas de rupture. Est-ce que si on pousse plus loin le raisonnement, on peut parler de normalisation de la politique étrangère de Donald Trump par Joe Biden ?
Alors, le malentendu qu'il y a eu avec cette formule « America is back », c'est qu'on a cru, ou certains ont cru, ou on a voulu croire peut-être, que c'était « back » à l'Amérique d'il y a longtemps. Or, l'Amérique a changé, et elle avait déjà commencé à changer avant Donald Trump. Le pivot vers l'Asie, c'est Barack Obama. Le ras-le-bol ou la fatigue devant ce qu'on a appelé les guerres sans fin, donc Irak et Afghanistan, c'était déjà depuis l'époque d'Obama. Donc on a une tendance que Donald Trump a accentuée et a personnalisée à sa manière, c'est-à-dire de manière un peu erratique et transactionnelle. Mais Biden est finalement dans la continuité de ses deux prédécesseurs sur ce point-là. Et il est dans la continuité de Donald Trump, en tout cas sur un point, qui est évidemment la focalisation exclusive ou quasi-exclusive sur la Chine, avec ses implications aux quatre coins de la planète. Et c'est ça qu'on n'a peut-être pas assez saisi au mois de janvier, lorsque Biden s'est installé à la Maison-Blanche, c'est-à-dire que, oui, America is back, mais pas exactement là où on pensait qu'elle serait. Lorsqu'il y a eu la chute de Kaboul, c'est François Hesbourg, qui est un spécialiste de stratégie, a eu un bon mot qui était drôle, qui était « America is back home ». Elle est rentrée à la maison. En fait, ce n'était pas tout à fait vrai, parce que l'Amérique est de retour, mais elle choisit aujourd'hui ses engagements et elle a une obsession et une qui est en plus consensuelle aux États-Unis, qui est la Chine.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, on reparlera bien sûr de la Chine, mais dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Européens finalement ont été très naïfs de penser que le America is back signifiait un retour à une alliance avec l'Europe, Marie-Cécile Nave?
Oui, peut-être. Ils avaient eu l'occasion sous le mandat de Trump de définir une stratégie commune vis-à-vis des États-Unis et du monde. En particulier, ça aurait été l'occasion de travailler sur la dédollarisation de l'économie mondiale, d'essayer de contourner le principe d'extraterritorialité du droit américain qui continuera avec Biden, de définir une politique de défense un peu plus unie. Mais quand Biden a été élu, on s'est dit en Europe que bon bah oui voilà, comme le disait Pierre Aski, on va revenir à une normalisation de ce qui était avant, si tant est que cette normalisation n'était pas elle-même idéalisée. Donc oui, sans doute, il y a eu une désillusion. Et puis, il y a quand même un certain nombre de terrains d'entente potentiels entre les États-Unis et l'Europe, y compris sur la Chine. Alors sur la Chine, on n'a pas les mêmes intérêts en Europe qu'aux États-Unis par rapport au commerce. L'Allemagne, par exemple, a des énormes intérêts économiques avec la Chine sur le commerce. En revanche, on peut s'entendre avec les États-Unis sur les questions de défense des droits de l'homme, sur les questions de lutte contre la technologie de surveillance. C'est pas tout blanc ou tout noir, mais certainement qu'on a vu un agneau chez Biden, et c'était une erreur, parce que dans l'histoire récente des États-Unis, on n'a pas une relation toujours aussi facile sur les questions de la question des droits de douane. On se souvient de l'époque des deux Bush, d'Obama aussi, c'était compliqué.
Alors là aussi, on reparlera de l'entente potentielle entre les États-Unis et l'Europe sur la Chine, avec cette question peut-être que je vous poserai, de savoir si on peut rester longtemps sans choisir son camp. Je parle pour l'Europe, mais je me tourne vers vous, James Cohen. Comment est-ce que cette politique étrangère de Joe Biden est-elle perçue aujourd'hui aux États-Unis? On se souvient que le retrait d'Afghanistan, on parlera de l'Afghanistan, a été plutôt une chose qui a été jugée négativement.
Oui et non. Oui, alors, le retrait, pas si négativement, mais les conditions du retrait plus négativement. Comment est-il perçu? Alors, ça dépend évidemment de qui. La société est très polarisée. La vie politique terriblement polarisée, et en intervenant sur un sujet comme ça, je vous dois de vous rappeler que je suis électeur aux États-Unis. Je ne peux pas intervenir de manière neutre, en aucun cas. Je pense que l'élection de Biden a été la seule manière qu'il y avait d'éloigner un danger beaucoup plus grand. J'ai donc voté pour Biden sans beaucoup d'enthousiasme, sachant qui il est et d'où il vient, et surtout en politique étrangère. Et je pense que tout ce dont on est en train de parler autour de la Chine et de l'Australie, etc., et la Grande-Bretagne, est pour moi un signe de plus d'une politique étrangère qui me trouble énormément. Je me situe, disons, dans les marges de gauche du Parti démocrate et lieu qui commence à exister. Donc je parle de quelque part aux États-Unis. Nous sommes là, mais nous ne pesons pas beaucoup sur la politique étrangère. Il y a un consensus qui a été évoqué à propos de la Chine. Oui, parce que d'une manière ou d'une autre, démocrate ou républicain, il allait y avoir plus de fermeté vis-à-vis de la Chine, certes. Mais je dirais que à gauche, on s'en méfie quand même un peu. Et quand je regarde l'affaire des sous-marins, je comprends absolument le dépit des Français, mais je m'inquiète plus encore pour le monde, parce que je vois une sorte de montée des enchères et de course aux armes dans la région qui m'inquiète en tant que citoyen électeur aux États-Unis et la France, etc. Bon, voilà. Voilà.
Course aux armements. Dans un premier temps, Pascal Boniface, comment peuvent, d'après vous, évoluer les relations entre la France et les États-Unis, et entre les États-Unis et l'Europe, plus généralement?
Dans un premier temps, on nous dit « embrasse-nous Folleville, tout est normal », ils ont quand même un peu une erreur de stratégie, à mon avis. Quand on rappelle l'ambassadeur, on n'a pas arrêté de dire « c'est la première fois depuis 1978 », un coup de fil de Biden, oui, la France est un allié, on renvoie l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Donc normalement, c'est un peu comme quand Obama dit « il y a des lignes rouges », Bachar franchit les lignes rouges et on ne fait rien. Donc quand vous rappelez l'ambassadeur, ce qui est un geste fort, vous devez obtenir quelque chose avant de le renvoyer. Sinon, c'est une deuxième défaite. Ça me rappelle lorsque la NSA, il a été montré par Snowden que la NSA avait écouté les Allemands, les Français, etc. On m'a dit, oh, oui, bon, c'est promis, on fera plus. Ah bon, bah d'accord. Et à chaque fois, on dit, mais on a besoin des Américains pour le Sahel, donc on peut pas trop rien dire, etc. Donc en fait, on a accepté quelque chose qu'on n'aurait pas dû accepter. Ou alors il fallait pas faire l'erreur de rappeler notre ambassadeur. Il s'exprime autrement. Ceci étant, je pense que à long terme, ça va laisser des traces. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours un débat en France entre ceux qui pensent aussi « America first ». Il y a des Français qui pensent qu'il faut d'abord se fier aux États-Unis pour la protection de l'Europe, de la civilisation, de l'Occident, et d'autres qui pensent que l'Europe doit avoir un pas plus indépendant. Ceux-ci ont été horrifiés par Trump, commencent à se dire « là, quand même, ça sent mauvais ». Quand vous avez le pape qui dit « je crois plus dans l'Église », vous commencez à vous inquiéter. Et donc, là-dessus, Trump inquiétait beaucoup de monde. Et tous ces gens-là ont été rassurés de voir Biden arriver. Mais coup sur coup, Kaboul et les sous-marins, on voit que le ton a changé, mais que le script est le même. Donc, c'est un pas supplémentaire vers l'autonomie européenne, qui sera longue, qui ne sera pas faite demain. Mais en tous les cas, en termes, c'est une perte d'honneur pour la France et c'est une perte de crédibilité pour les États-Unis.
C'est une erreur des États-Unis d'avoir mis la France hors jeu, Pierre Aski. Et au-delà de cela, Pascal Boniface parle de script qui est à l'identique, à ceci près que c'était plus facile de se fâcher avec Donald Trump que ça ne l'est aujourd'hui de se fâcher avec Joe Biden.
Oui, et moins peut-être du point de vue français que du point de vue européen. Parce que le véritable enjeu, il n'est pas tellement avec la France, au bout du compte. La France, elle a un rapport aux États-Unis qui est historiquement complexe et qui a eu ses hauts et ses bas. La question, elle est plus largement celle de l'Europe. Et on voit bien qu'une partie non négligeable de l'Union européenne a cru qu'avec le départ de Donald Trump, on allait retrouver une Amérique fréquentable, bienveillante et protectrice. Et que c'est là que se situe non seulement la plus grande désillusion depuis Kaboul, puis cette affaire qui au début a été perçue comme franco-américano-australienne et dont on découvre qu'elle est effectivement plus stratégique et pas seulement une affaire de commerce. Et donc, est-ce que les Européens vont accepter cette idée que le parapluie américain n'est pas totalement aussi fiable et aussi solide qu'il était autrefois, et deux, qu'il faut quand même penser aussi le monde en tant qu'Européen et pas seulement en tant qu'allié des Américains. C'est un enjeu qui est, j'allais dire, vieux comme l'Europe et qui a fait des progrès, c'est incontestable. Il y a des pas qui ont été franchis ces dernières années. Il y a par exemple un budget, un fonds pour la défense dans le budget européen. C'est la première fois. Il y a aujourd'hui, ça fait partie de cette évolution, il y a des forces spéciales estoniennes qui sont en train de se battre aux côtés des Français au Sahel contre des djihadistes. C'est complètement nouveau. Il y a quelques années, la logique géopolitique de l'Estonie, c'était de regarder vers l'Est, de regarder vers la Russie. Aujourd'hui, l'Estonie accepte l'idée que ses intérêts de sécurité peuvent se trouver aussi en Afrique. Et donc, c'est une évolution très lente. Il va y avoir un sommet européen dans quelques mois pour définir ce qu'on a appelé la boussole stratégique, c'est-à-dire la définition des intérêts communs, des menaces communes. Et c'est le premier pas. On aurait dû commencer par ça il y a fort longtemps. Mais tant qu'on n'a pas défini qu'est-ce qui nous unit en tant qu'Européens, quels sont nos intérêts, quelles sont nos menaces, quels sont nos risques, et donc qu'est-ce qu'on est prêt à faire ensemble dans notre défense et dans notre place dans le monde, on ne peut pas imaginer une défense européenne. Donc tout ça, c'est un apprentissage et c'est un long chemin. Simplement, le monde va beaucoup plus vite aujourd'hui et les épisodes à répétition qu'on vient de vivre, Kaboul et l'Australie, montrent que l'Europe, elle est encore loin du compte en termes de prise de conscience du monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Et l'un des défis pour l'Europe, évidemment, Marie-Cécile Nave et James Cohen, ça va être de peut-être, alors premier défi surtout pour Paris, de parvenir à européaniser cette crise et à emmener tout le monde dans ce mouvement. Marie-Cécile Nave.
Alors, c'est l'occasion rêvée, entre guillemets, si on peut dire, pour Emmanuel Macron, avec la France qui va prendre la présidence de l'Union européenne pour 6 mois en janvier. Et en plus, à quelques mois des présidentielles, donc il y a un double enjeu pour le président français qui, effectivement, comme il l'a promis depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de prendre un peu le lead d'une vision européenne. En plus, là, il y a les élections en Allemagne après-demain. Le temps que le nouveau pouvoir exécutif, législatif exécutif se mette en place, il y a une petite phase de latence. C'est une occasion rêvée pour le président français. Et je pense qu'il l'a en tête puisqu'il ne prend pas la parole publiquement pour parler de cette crise. Il laisse parler Jean-Yves Le Drian. Mais je voudrais... Le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais apporter un petit bémol quand même au fait que la politique externe de Biden, c'est la continuité de Trump. Mm-hmm. C'est quand même pas ça. C'est-à-dire que il y a une volonté de stabilisation des relations internationales après le président du chaos qui était Trump, qui est pensé de manière très approfondie pendant la campagne par Joe Biden. Et Biden, c'est quand même la volonté d'un multilatéralisme modéré, où la France n'est pas nécessairement le partenaire principal, mais dans lequel les États-Unis prendraient le lead. Donc, c'est à la fois le retour d'un multilatéralisme modéré, mais aussi avec quand même des vieux schémas, des anciens schémas. Certes, les États-Unis ne sont plus les gendarmes du monde, mais il y a cette volonté de leadership, il y a cette volonté d'être un peu le chef de la diplomatie mondiale. Donc c'est à la fois un ordre mondial nouveau, c'est la rupture quand même avec Trump sur ce plan-là et sur le ton aussi, mais on reste dans des réflexes de vouloir guider le monde, de vouloir guider le monde sur les questions sanitaires, de sortie de crise, sur les questions climatiques. Et puis il y aura des sujets sur lesquels il va falloir travailler avec les Européens, et aussi avec la Chine d'ailleurs, c'est la question iranienne. Il y aura plein d'autres occasions de redorer la relation transatlantique.
La question iranienne qui vient se compliquer précisément avec cette question de vente des sous-marins nucléaires à l'Australie, avec d'un côté, en tout cas on peut constater une sorte de politique de deux poids deux mesures. Pascal Boniface, très rapidement, après ça je proposais à James Cohen de conclure cette première
d'accord
partie.
D'accord avec Marie-Cécile pour dire que Trump et Biden, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce multilatéralisme et leadership, c'est pas tout à fait... Quand on veut imposer sa volonté aux autres, ce n'est pas du multilatéralisme. Et le leadership, c'est prendre des initiatives après avoir consulté les autres. Lorsque les États-Unis prennent l'initiative, ils n'ont consulté personne auparavant et ils n'informent personne. Ils disent, voilà, on prend une initiative. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du vrai multilatéralisme. Et ce qui reste quand même dans la démarche américaine, les Américains étaient beaucoup plus multilatéralistes, d'une part entre 45 et 49, ou même dans les années 60, ils consultaient plus les Européens dans les années 60, quand il y avait une vraie menace soviétique. Là, je n'appelle pas ça du multilatéralisme.
Multilatéralisme modéré. James Cohen.
Écoutez, le travail que je fais dans les relations internationales porte essentiellement sur les Amériques et je pense que je peux compléter un peu ces perspectives en parlant de la frontière, qui est un problème, entre autres, de politique étrangère des États-Unis avec les plus proches voisins. Je pense que Trump était absolument horrible avec les migrants, mais aussi avec les gouvernants des pays voisins d'où venaient les migrants. L'administration et Biden est plus polie, mais n'est guère plus efficace et aussi brutale. Jusqu'à maintenant, en tout cas... Pour ce qui concerne la gestion de la frontière, vous avez vu les images de l'autre jour des Haïtiens en train d'être refoulés par la police frontalière. Bref, là, il y a une continuité inquiétante. Il n'y a pas que ça. C'est plus complexe, mais il y a plus de continuité qu'on aurait voulu.
Plus de continuité que ce que l'on aurait voulu. Géopolitique, on vous retrouve. James Cohen avec Pierre Aski, Pascal Boniface et Marie-Cécile Nave. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique étrangère américaine avec ce slogan de Joe Biden, America is back. Nous retrouvons nos invités à Nantes où nous sommes dans le cadre de Géopolitique de Nantes, événement co-organisé par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nantes Métropole est le lieu unique. Nos invités donc Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, son dernier livre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et stratégique. James Cohen, politiste, professeur à Paris 3 Sorbonne, nouvelle au sein du département Monde anglophone et à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et Pierre Aski, chroniqueur géopolitique à France Inter et à l'Obs, également président de Reporters sans frontières. On a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission des conséquences pour l'Europe de cette histoire de contrat de sous-marins entre les États-Unis et l'Australie, avec toutes les frustrations que ça a pu générer en Europe, avec ce sentiment de trahison, ça a été exprimé par la France. Si on se place côté asiatique, Pierre Aski, évidemment, les choses ne sont pas... le spectre n'est pas le même. Et pour le coup, je pense que cette décision et cette mesure qui marque aussi ce retour de l'Amérique, eh bien, est plutôt vue d'un bon œil.
Alors, ça dépend par qui, mais c'est vrai que ça marque une escalade. À la tribune des Nations Unies, il y a quelques jours, Joe Biden a dit qu'il ne voulait pas d'une guerre froide. Or, il faut bien le dire que ça ressemble quand même beaucoup à la mise en place d'une guerre froide. On a, comme à l'époque de la guerre froide, des alliances qui commencent à encercler la Chine, à endiguer le containment, comme on disait à l'époque de la guerre froide, même le vocabulaire revient. Vous avez donc l'AUKUS, cette nouvelle alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Vous avez le Quad, alors qui est un regroupement qui existait déjà, mais qui tout d'un coup est élevé à un niveau stratégique plus important.
Australie, Japon, États-Unis et Inde. Inde.
Et qui vient de se réunir, pareil, au sommet à Washington. Et vous avez les embargos sur la technologie de pointe, entamés par Donald Trump, et une société comme Huawei est aujourd'hui barré dans un certain nombre de pays occidentaux, n'a plus accès à certains types de composants, etc. Donc vous avez un certain nombre d'ingrédients de la guerre froide. Et l'Asie-Pacifique est aujourd'hui, ou l'Indo-Pacifique, pour employer le terme nouveau, est aujourd'hui le lieu du réarmement. Les dépenses, les investissements militaires sont considérables, et avec des foyers de tension qui sont colossaux, qui sont aussi bien terrestres à la frontière sino-indienne, où il y a eu un conflit il n'y a pas si longtemps et la tension reste palpable. Vous avez la mer de Chine méridionale, vous avez évidemment l'enjeu de Taïwan. Donc tout ça, c'est une équation qui est en train de prendre forme. Ça a commencé il y a déjà un certain temps, et vous avez une Chine qui, elle, se ferme, se braque, se durcit. Et donc vous avez ce face-à-face où effectivement, après Kaboul, l'Amérique et Joe Biden ont voulu montrer très vite, donc un mois après, que ce n'était pas un repli sur le territoire américain, c'était au contraire un redéploiement sur le conflit principal, la confrontation principale, qui est celle avec la Chine. Et donc on a effectivement cet esprit de guerre froide dans lequel on demande aux pays de choisir, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et tout d'un coup, l'Australie, qui avait, et là l'histoire des sous-marins est intéressante, parce que l'Australie avait choisi la technologie française pour développer son autonomie stratégique à elle, c'est-à-dire d'avoir sa propre vision dans une zone stratégique. Aujourd'hui, elle est clairement engagée dans le camp américain. Et la première réaction du Global Times, qui est le journal nationaliste de Pékin, qui est publié par le Parti communiste, ça a été de dire « Désormais, l'Australie peut être frappée par nos armes nucléaires en cas de conflit avec les États-Unis parce que l'Australie est dans le camp américain ». Donc on voit bien que l'impact de toute cette histoire, c'est de faire monter d'un cran l'escalade et tous les dangers potentiels qui vont avec. Je ne pense pas que quiconque ait envie de la guerre aujourd'hui, ni les Chinois ni les Américains, mais en revanche, la guerre accidentelle, c'est-à-dire un incident dans le détroit de Taïwan qui escalade, il y a plein de scénarios possibles, il y a d'ailleurs de très bons romans qui sortent avec des scénarios de Troisième Guerre mondiale qui se déroulent tous dans cette zone.
En tout cas, il a cet accord, le mérite, ou cette alliance a le mérite de clarifier les choses. Il y avait en Asie des inquiétudes sous Donald Trump. On a entendu le Japon, la Corée s'inquiéter du fait que Washington envisageait un départ de troupes américaines, que le parapluie peut-être américain était plus incertain. Là, Marie-Cécile Nave, la question se clarifie avec Joe Biden.
Sans compter que la Corée du Nord s'est renforcée sous Donald Trump, a acquis une présence internationale, une aura internationale, si je puis dire, sans contrepartie envers les Américains. Alors, Biden dit que c'est la fin des guerres sans fin avec le retrait de Kaboul, mais quand même, effectivement, la diplomatie dans la région, elle est, dans la région Indo-Pacifique, elle est très, très axée sur le militaire. Donc, il y a les sous-marins armés de missiles, le croiseur Tomahawk. Il y a aussi une coopération renforcée dans les domaines qui déterminent ce que les protagonistes sur place appellent les guerres du futur, donc la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, etc. Et puis Boeing, la branche militaire de Boeing, a annoncé qu'elle allait externaliser en Australie la fabrication d'un drone militaire, parce que ça permet aussi de compenser la branche civile de Boeing qui est un peu en difficulté. Donc, en plus, ça va faire débat aux États-Unis parce qu'il y a un transfert de technologie, ça risque de faire débat. Mais on voit bien que cette présence stratégique, certes avec des alliés anglo-saxons dans la région, elle est très très fortement axée sur le militaire. Ce n'est pas les boys comme en Afghanistan, mais c'est les nouvelles technologies de défense face aux nouvelles menaces. Et donc, effectivement, ça ne peut que faire monter la tension et l'irritation du côté de la Chine et de ses alliés.
Est-ce qu'on peut voir James Cohen dans ce qui se passe actuellement, une sorte de réaction, finalement, peut-être à la faiblesse américaine par rapport à la Chine en termes économiques et commerciaux? Et donc, on montre les muscles sur le plan diplomatique et militaire.
Je pense que c'est incontestablement ça. J'ai cru voir le chiffre de 740 milliards de dollars prévus pour le budget du Pentagone cette année. Il y a eu une hausse très importante sous Trump et la hausse continue sous Biden. Et où va-t-on comme ça?
Pascal Boniface.
Oui, d'ailleurs, Biden voulait réduire de 24 milliards les dépenses militaires américaines et c'est le Congrès et le Congrès démocrate qui a refusé en disant non, il faut muscler. Mais par rapport à votre question, comment c'est ressenti en Asie, ça dépend. Le Japon peut être rassuré parce que le Japon était très inquiet d'être lâché par Trump. En même temps, le Japon n'a pas envie d'aller tout à fait à la confrontation avec la Chine. La Corée du Sud est très effrayée par ce qui se passe. Parce que la Corée du Sud commerce beaucoup plus avec la Chine qu'avec les États-Unis. Et les pays de l'ASEAN sont aussi très inquiets, peut-être pas le Vietnam, mais les pays de l'ASEAN, qui sont des nations commerçantes, eux, ont envie de ne pas être laissés seuls face à la Chine, mais de ne pas être entraînés dans une croisade anti-chinoise par les États-Unis. Donc cette politique confrontationnelle, et les Australiens vont quand même apprendre, je leur souhaite bon plaisir, lorsque, un, ils vont payer le dédit aux Français, deux, qu'ils n'auront aucune compensation industrielle de la part des Américains, trois, que les Chinois, avec lesquels ils ont un commerce international 4 fois plus élevé qu'avec les États-Unis, vont commencer à faire quelques... Parce que les Chinois ne vont pas dire on continue à acheter tout ce qui est en Australie comme d'habitude. Donc, à mon avis, c'est les Australiens qui sont les dindons de cette farce qu'ils ont eux-mêmes montée. Mais donc, on assiste quand même à une course aux armements nouvelle. Et Trump l'avait déjà relancé, Biden la continue, et c'est ça qui m'inquiète, et je veux pas tomber dans le complotisme. Enfin, quand même, Eisenhower avait dénoncé le complexe militaro-industriel dans son dernier discours, et moi, ce qui me frappe quand je regarde les États-Unis, c'est le lobby le plus puissant. Parce qu'il a bien réparti auprès des différents territoires. Il y a soit une caserne, soit une industrie d'armement. Et à chaque fois, la solution, c'est plus. Alors, peut-être moins d'intervention, mais plus de dépenses militaires. Le problème, c'est que quand on a un gros marteau, on voit des clous partout. Et que, à force de muscler le dispositif, Biden voulait mettre fin aux guerres sans fin. Mais il ne faudrait pas que, d'une autre façon, il en lance une par inadvertance. Alors, pendant très longtemps, je luttais contre ce concept de nouvelle guerre froide. Je dois avouer que j'ai eu tort et qu'il y a effectivement... La seule différence, c'est qu'il y avait 2 milliards par an d'échanges économiques entre l'URSS et les États-Unis. Il y a 2 milliards par jour entre Pékin et Washington. L'autre différence, c'est qu'au plus fort de la guerre froide, l'URSS n'a jamais fait que 40% du PIB américain. La Chine est déjà à 70% du PIB américain. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la réaction américaine. C'est qu'ils sont angoissés par la montée en puissance de la Chine. Mais je ne crois pas que la Chine va dire « Oh, on comprend votre douleur, on va s'arrêter de croître parce que ça vous inquiète et vos craintes sont légitimes. »
Pierre Aski.
Oui, cette guerre froide, comme la précédente, se déroule partout. Et il y a un aspect intéressant à la fois dans la prise de position du dernier G7, mais aussi dans le discours de Biden aux Nations Unies, c'est l'idée, par exemple, de proposer un grand plan de construction d'infrastructures au monde, qui est le pendant des routes de la soie chinoises avec la construction de ports et d'infrastructures un peu partout. Et on voit bien que l'enjeu, il est à la fois, certes, d'endiguer la Chine militairement en Asie, de la décourager, par exemple, d'attaquer Taïwan, mais aussi de reprendre pied là où l'influence chinoise a le plus augmenté ces deux dernières décennies, le continent africain, par exemple. Il faut savoir aujourd'hui que si Huawei, donc l'équipementier télécom, est banni des États-Unis et d'une bonne partie de l'Europe, 9 États africains sur 10 utilisent Huawei pour la 5G. Donc les Chinois ont acquis des positions dans un continent comme l'Afrique, mais aussi ils sont devenus le premier partenaire commercial de l'Amérique latine. On pense souvent à l'Amérique latine comme la chasse gardée de l'Amérique du Nord, mais ça n'est plus du tout le cas. Donc il y a dans cette stratégie qui est conçue aujourd'hui à l'échelle mondiale une volonté de reconquête de ce qui a pu être perdu au cours des deux dernières décennies au profit de l'influence chinoise.
Alors, James Cohen, sur l'Amérique latine, après ça, j'aimerais qu'on parle nucléaire et Taïwan.
Tout à fait. Je voulais juste dire un mot au passage sur Cuba, parce que si vous cherchez des signes de guerre froide, vous en trouvez aussi à Cuba, parce que Trump nous y a replongé et Biden continue, mais en pire, avec des sanctions et des mesures d'embargo plus strictes encore que celles imposées par Trump. Ça nous rappelle des choses très anciennes. C'est de la guerre froide.
Vous écoutez RFI, géopolitique.
Alors, la question de la prolifération nucléaire, on a bien compris qu'en favorisant les 8 sous-marins à propulsion nucléaire plutôt que les 12 sous-marins à propulsion diesel de la France, les États-Unis remettent en cause les accords de non-prolifération. Et la question de l'Iran, les négociations avec l'Iran, prend peut-être une tournure différente de ce qu'elle était précédemment, Marie-Céline Nave.
Oui, d'autant que les négociations sont au point mort. Elles ont repris au printemps avec la nouvelle administration américaine, mais l'Iran est sorti renforcé des années Trump, puisque quand Trump sort des accords de Vienne de 2015 en 2018, l'Iran reprend sa fabrication nucléaire et aujourd'hui elle dit on entrera dans les négociations avec vous Américains, mais aussi France, Chine, Russie, etc. si vous arrêtez à Washington les sanctions financières et économiques contre nous, ce que refuse évidemment de faire les États-Unis, en particulier, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'il y a un consensus républicain-démocrate sur ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de sujets de consensus, mais enfin, celui-là et la Chine, c'en est un. Donc, pour l'instant, les négociations sont au point mort. Et pourtant, c'est la deuxième, on pourrait dire que c'est la deuxième priorité géopolitique de Biden de revenir sur cet accord de non-prolifération nucléaire du côté de l'Iran. Et puis, c'est un jeu de domino, puisqu'il y a aussi les relations avec Israël dans la région qui sont en jeu pour les États-Unis. Donc, affaiblir l'Iran, ça fait partie des objectifs de Biden. Est-ce qu'il pourra tout faire dans son premier mandat ou dans son seul mandat? On verra.
Pierre Aski.
Il y a un petit élément qui est passé assez inaperçu la semaine dernière. C'est que l'Iran est devenu membre à part entière de la Shanghai Cooperation Organization, SCO, que peu de gens connaissent parce que ça s'est monté au cours des 20 dernières années sans faire trop de bruit et on n'y a pas prêté trop attention. Mais c'est une organisation qui est coparrainée par les Chinois et les Russes et qui était à l'origine destinée à sécuriser l'Asie centrale. Donc tous les pays en ce temps, Tadjikistan, Ouzbékistan, etc., en faisaient partie. Ça s'est énormément élargi depuis. Et dimanche dernier, l'Iran est devenu membre à part entière. Et c'est extrêmement intéressant parce que les Américains ont tendance à penser que l'Iran est isolé, que l'Iran est acculé et n'aura pas le choix que de rentrer dans les négociations. Et là, on a le signe que l'Iran a une marge de manœuvre, que les Chinois, échaudés par les Américains, commencent à, à mener leur propre stratégie. On murmure qu'ils achètent beaucoup plus de pétrole iranien qu'autrefois, malgré les sanctions américaines. Et donc, il y a là encore la contamination de la guerre froide, de l'esprit de guerre froide, avec deux blocs et des contournements de sanctions, de boycotts, etc.
Alors, justement, je ne sais pas si on aura le temps de parler de Taïwan, mais Pascal Boniface, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le défi du monde actuel est précisément de maintenir un monde unique ?
Un monde unique,
c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on va vers une sorte de régionalisation du monde.
Alors oui, effectivement, on peut avoir même la technologie, il y aurait une norme américaine, une norme chinoise, et il y a une compétition, une sorte de nouvelle division avec des technologies qui deviendraient non compatibles. Mais je ne pense pas, ça reste en fait, on voit bien que c'est un monde globalisé avec la Chine qui passe des alliances et les États-Unis qui en passent, et c'est à l'Europe aussi. L'Europe a un rôle important, l'Europe a le choix soit d'être en brigadée dans une croisade anti-chinoise, soit d'essayer d'être un pont entre la Chine et les États-Unis. C'est difficile, c'est compliqué, mais il n'y a pas tellement, parce que cette confrontation, nous, le problème de la suprématie mondiale, ce n'est pas le problème de l'Europe. Ça fait longtemps qu'on y a renoncé. C'est le problème des États-Unis, parce que les États-Unis dominent le monde depuis 1945, ils s'aperçoivent avec effroi qu'ils n'ont plus le dominer. Donc ils sont angoissés et ulcérés, que ce soit en plus un pays non caucasien et communiste qui puisse les doubler. Et à nous de ne pas se laisser embrigader là-dedans pour ne pas donner plus d'arguments. Et l'Australie, là-dessus, la geste australienne est très coupable, parce qu'ils alimentent quelque chose qui va plutôt conforter les Américains que cette guerre froide est gagnable. Et donc, à nous de dire non. Et c'est vrai que l'Europe, on est par rapport à la Chine en rivalité, on est en opposition sur les questions de droits de l'homme, etc. On est en rivalité sur les affaires commerciales, technologiques, mais on est aussi parfois en partenariat. En tout cas, il est vraiment important, pour éviter cela, que les Européens décident de leur propre agenda, aussi bien par rapport aux États-Unis que par rapport à la Chine, et qu'ils ne soient pas confrontés au choix unique de dire on est obligé de suivre les Américains comme on était obligé de les suivre contre l'Union soviétique.
Avec cette question tout de même de savoir si les Européens peuvent rester sans choisir leur camp, mais avec ça, un besoin d'exister, un besoin de se renforcer. Pierre Aski.
Oui, je pense que c'est très compliqué et ça va devenir difficilement tenable, parce que cette polarisation à la fois devient une réalité et chacun est sommé de choisir son camp, mais aussi parce que être neutre, c'est laisser la place à la Chine. Et aujourd'hui, on voit bien que le comportement de la Chine, la manière dont elle se conduit à la fois en interne et en externe, pose problème et ne permet pas de continuer à dire qu'on peut être partenaire, etc. Le revirement australien, il est en partie dû au fait que l'Australie est punie depuis 18 mois pour avoir été le premier pays à poser la question de l'origine du virus du Covid. Et avoir demandé une enquête. Et depuis, il y a boycott d'un certain nombre de produits australiens. Et les Australiens en ont conclu qu'il valait mieux se remettre dans le camp américain que de rester tout seul dans ce petit bout de Pacifique. Et nous, on va avoir le même problème. C'est-à-dire que, regardez les réactions au moment de cet accord commercial qui a été conclu en décembre entre l'Europe et la Chine. L'accord sur les investissements, qui a été extrêmement controversé, qui s'est retrouvé pris très vite dans les sanctions qui ont été prises par l'Europe contre des personnalités chinoises pour le traitement des Ouïghours, contre sanctions chinoises contre des personnalités du Parlement européen, dont Raphaël Glucksmann, et à l'arrivée, une ratification de cet accord qui n'aura sans doute jamais lieu, ou en tout cas pas avant Mathusalem. Et donc, le fait de dire oui, mais on peut d'un côté coopérer avec la Chine, de l'autre côté la critiquer sur les droits de l'homme, ça devient de moins en moins plausible comme stratégie, parce que la montée des enchères des deux côtés fait que la Chine aussi se cabre, se ferme, se durcit. Et on a aujourd'hui un pays qui en tout cas ne cherche plus à séduire ou à se faire comprendre du reste du monde, et qui au contraire affirme ses positions d'une manière extrêmement tranchée.
Et se faire respecter de la sorte. Merci Pierre Aski. Je rappelle que vous êtes chroniqueur géopolitique à France Inter et à l'Obs, président de Reporters sans frontières. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Dernier livre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, paru aux éditions Kalman-Lévy. Pascal Boniface, directeur directeur de l'Institut des Relations internationales et stratégiques, et James Cohen, politiste et professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle au sein du département Monde Anglophone et à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Julien Boileau à Nantes, Nathalie Laporte à Paris. Demain, nous parlerons des menaces sur les démocraties dans le monde, toujours dans le cadre de Géopolitique de Nantes.